rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du vendredi 20 août 2021. Voici d'abord le sommaire. En Ouganda, le gouvernement suspend avec effet immédiat les activités de 54 ONG. Au Rwanda, le verdict au procès de Paul Rusesabagina sera annoncé le 20 septembre. Au Zimbabwe, inculpation de meurtre d'un homme. Sa très jeune épouse est morte de complications liées à l'accouchement. En Afghanistan, les évacuations se poursuivent dans Kaboul, tombée aux mains des talibans. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le gouvernement ougandais a ordonné la suspension avec effet immédiat de 54 ONG, dont l'Organisation de défense des libertés civiles, Chapter 4 et la Coalition des citoyens pour une démocratie électorale. Nathalie Barge.
Selon le bureau des ONG qui dépend du ministère des Affaires intérieures, ces 54 associations opéraient sans être enregistrées, avec des permis expirés ou n'ont pas remis leur rapport annuel. Certaines organisations concernées avaient participé à une mission d'observation lors de la présidentielle de janvier. Elles avaient fait l'objet de perquisitions par les forces de sécurité et plusieurs dirigeants avaient été arrêtés. Un mois avant l'élection, Nicolas Opillo, fondateur de Chapter 4 et avocat de Bobi Wine, a été inculpé de blanchiment d'argent, puis libéré sous caution une semaine plus tard. En novembre, au moins 56 personnes ont été tuées alors qu'elles protestaient contre l'arrestation de l'opposant. La représentation de l'Union européenne dans le pays a dit attendre la résolution des problèmes d'enregistrement des organisations, soulignant que la société civile apporte une contribution vitale au développement de l'Ouganda.
Des combats jeudi et vendredi entre l'armée et le groupe armé ADF dans le nord-est de la RDC ont fait au moins 18 morts, dont 9 civils, un militaire et 8 rebelles. Il y a eu incursion des ADF dans le village Katanda, un territoire de Beni dans le nord Kivu. Selon Abdul Kalemir, le dirigeant de la chefferie de Bachou, l'armée dont la position la plus proche est située à 11 km de ce village est intervenue en retard, mais a permis la libération de 15 otages. Des députés de la région de Tillabéri dans l'ouest du Niger ont réclamé vendredi un renforcement des mesures de sécurité dans cette zone entre Niger, Mali et Burkina Faso, théâtre d'attaques sanglantes de djihadistes présumés. En émoi, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués dans 3 départements de la région, Bani Bangou, Torodi et Abala, rappellent ces élus. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé au Mali de fournir d'ici au 28 août un mémoire justifiant les violations présumées des droits de Mokhtar Wane et Bandao. L'ex-premier ministre malien Mokhtar Wane et Bandao, ancien président de la transition, ouverte après un premier coup d'état militaire en août 2020, ont été arrêtés le 24 mai 2021 dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta. Les gardiens de prison de Côte d'Ivoire ont suspendu vendredi leur mouvement de grève déclenché il y a 2 jours pour réclamer de meilleures conditions de travail. Nous avons suspendu notre mouvement de grève après avoir obtenu en partie satisfaction, a expliqué à Okodago, secrétaire général du collectif des syndicats du personnel pénitentiaire de Côte d'Ivoire. Le service va reprendre, a-t-il ajouté, affirmant avoir notamment obtenu la libération d'une dizaine de nos camarades arrêtés au début du mouvement mercredi. La Cour d'appel du Kenya a confirmé vendredi l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta. Cette réforme est baptisée Building Bridge Initiative, vise à modifier la constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel pour créer notamment un poste de premier ministre, deux de vice-premier ministre et un de chef de l'opposition et augmenter le nombre de sièges au Parlement. En conclusion du jugement, Le président du tribunal, Daniel Musinga, a notamment déclaré que le président n'a pas le pouvoir, en vertu de la Constitution, d'initier des modifications de la Constitution. Un amendement constitutionnel ne peut être initié que par le Parlement ou par initiative populaire. Le chef de l'État peut faire l'objet de poursuites civiles pour avoir lancé illégalement ce processus, ont également estimé les 7 juges. Au Rwanda, le verdict du procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, sera rendu le 20 septembre, a annoncé l'autorité judiciaire rwandaise. Le point avec Marius Muhunga.
Le tribunal de Kigali, qui a jugé de février à juillet Paul Rusesabagina et 20 co-accusés, a annoncé mercredi le report de l'annonce de sa décision qui était prévue pour aujourd'hui le 20 août. Le prononcé du jugement dans l'affaire de M. Rusesabagina a été ajourné au 20 septembre 2021 à 9h temps universel, a annoncé l'autorité judiciaire sur Twitter. Paul Rusesabagina, âgé de 67 ans, opposant virulent au président Paul Kagame, a été jugé pour son soutien présumé au Fonds des Libérations Nationales, un groupe de rebelles accusés d'attaques meurtrières au Rwanda. Il a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique, dont le FLN est considéré comme le bras armé. Il nie toute implication dans des attaques menées par ces groupes en 2018 et 2019 qui ont fait au moins 9 morts. Monsieur Rusesabagina et ses avocats ont boycotté les audiences depuis le mois de mars, dénonçant un procès politique. Il est visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme, et il risque la prison à perpétuité.
Un Zimbabwéen de 26 ans a été inculpé vendredi pour meurtre après la mort le mois dernier de son épouse Anna Makaya, âgée de 14 ans, au cours d'un accouchement. Elle est décédée dans un sanctuaire religieux de complications. Deux points avec Rosine Munezero.
Hatirarami Mombelume, 26 ans, a été arrêté cette semaine et traduit en justice à Mutare, la troisième ville du Zimbabwe. Il est accusé de meurtre pour ne pas avoir amené à l'hôpital sa femme, Anna Makaya, 14 ans, alors qu'elle souffrait de douleurs d'accouchement qu'elle pouvait mourir. Il a été inculpé d'avoir eu des relations sexuelles avec un mineur et placé en détention provisoire et son processus va reprendre le 3 septembre. Les sages-femmes qui ont aidé la jeune épouse avant son décès le 15 juillet ont été citées par le tribunal et risquent aussi d'être arrêtées. Les parents de Makaya sont aussi accusés d'entrave à la justice. Ils ont tenté de dissimuler l'âge de leur fille en remettant aux enquêteurs un acte de naissance d'une cousine âgée de 22 ans. La police a subi des pressions pour agir avec plus de 92 000 personnes qui ont signé une pétition appelant à des poursuites. Se marier avant l'âge de 18 ans est illégal depuis 2016 au Zimbabwe, mais le pays est parmi les 20 premiers du continent où le mariage des enfants est le plus répandu. Selon l'Agence nationale des statistiques au Zimbabwe, une fille sur 3 est mineure au moment du mariage dans les zones rurales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, un pont aérien mobilise depuis dimanche des avions du monde entier pour évacuer des étrangers et des Afghans de l'aéroport de Kaboul, dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans. Les précisions de John Lyndon.
Les États-Unis, qui prévoient d'évacuer plus de 30 000 civils via leurs bases au Koweït et au Qatar, ont déjà acheminé plus de 7 000 personnes depuis le début des opérations le 14 août. Près de 12 000 personnes au total ont déjà été évacuées par les États-Unis depuis la fin juillet. Un pilote militaire tchèque de retour de Kaboul a décrit les conditions difficiles des rotations aériennes avec l'Afghanistan, sans véritable contrôle aérien, sans approvisionnement possible en kérosène sur place et avec des décollages périlleux. L'aéroport est néanmoins repassé sous contrôle américain et international. Le gouvernement canadien a confirmé que du personnel militaire était arrivé à Kaboul pour coordonner les efforts d'évacuation avec les États-Unis et ses alliés. 103 personnes ont été évacuées par l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Roumanie, la Pologne conduisent également des opérations d'évacuation. L'ambassade du Kenya à Pékin a établi que 12 Kenyans qui travaillaient pour des entrepreneurs privés ont été évacués vers Birmingham au Royaume-Uni. Un autre groupe de 40 Kenyans a déjà été évacué vers le Kazakhstan.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a affirmé vendredi qu'il ne pouvait pas garantir l'issue finale de l'opération d'évacuation à Kaboul, l'une des plus difficiles de l'histoire au terme d'une guerre longue de 20 ans en Afghanistan. « Je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale », a déclaré le président américain lors d'un discours à la Maison-Blanche en annonçant que les États-Unis avaient évacué 13 000 personnes d'Afghanistan depuis le 14 août. La crainte grandit que les promesses des talibans de se montrer clément soient sans lendemain. Un rapport rédigé par un groupe d'experts de l'ONU affirmait que les talibans possèdent des listes prioritaires de personnes qu'ils souhaitent arrêter. Les plus à risque sont ceux qui occupaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement, selon le document. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Après un ralentissement en 2020, les activités des structures de microfinance ont repris à la hausse dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au premier semestre, les crédits de l'EMOA ont augmenté de plus de 11% à 1700 milliards de francs CFA. Ils ont accru de 22% pour le Burkina Faso et de 15% pour la Côte d'Ivoire. Au Togo, les dépôts ont augmenté de 15% à près de 300 milliards de francs CFA. Air Sénégal, qui dessert Douala au Cameroun, prévoit d'ajouter des vols vers Yaoundé à partir de décembre en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer dans ce pays en janvier-février. La compagnie aérienne sénégalaise va bientôt doubler sa flotte d'appareils avec la commande de 8 nouveaux Airbus. Air Sénégal dessert 22 destinations en Afrique, en Amérique et en Europe. Au Gabon, l'autorité de régulation des communications somme le groupe Vivendi Afrique de rétablir la qualité du service Internet Canal Box suite aux nombreuses plaintes des utilisateurs. Au-delà de cette mise en demeure du régulateur, les clients du distributeur veulent être dédommagés pour les coupures du réseau Internet et les manquements du service après-vente de la compagnie.
Et nous passons directement à votre page des sports, Bagassi Koura, avec vous ce soir. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Les nouvelles du Real Madrid et Benzema qui prolongent. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Zinedine Zidane sont tous partis, mais lui est toujours là. L'attaquant français Karim Benzema prolonge son contrat du Real Madrid jusqu'en 2023, une année supplémentaire pour entrer un peu plus dans la légende de la Maison Blanche. L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui. Merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années. A commenté ce vendredi Benzema sur Instagram. Désormais, le patron, c'est lui. À 33 ans, Karim Benzema sort de la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel et est devenu le principal atout offensif d'un Real Madrid en reconstruction où sa voix est de plus en plus importante. Une confiance mutuelle avec le club de la capitale espagnole qui lui a permis de s'imposer parmi les meilleurs avant-centres au monde depuis 2009 et qui souhaite aujourd'hui tout faire pour le garder. Et puis la flamme paralympique est arrivée dans la capitale japonaise et le logo des Jeux paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre a été installé au bord de la baie de Tokyo alors que le pays fait face à un nombre record de cas de Covid-19 à 4 jours de la cérémonie d'ouverture. Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé les 25 000 au niveau national pour la première fois ce jeudi. Le nombre de patients en état grave atteignant également des sommets dans l'archipel touché depuis juin par une cinquième vague de coronavirus. Et la Jamaïcaine Tina Clayton, elle a remporté le 100 mètres des championnats du monde des moins de 20 ans hier à Nairobi devant la Namibienne Béatrice Masilingi, l'une des révélations des Jeux Olympiques de Tokyo. Clayton a dominé de bout en bout la finale pour signer un nouveau record personnel de 11 secondes 09. Elle s'offre à 17 ans le titre remporté en 2018 par sa compatriote Brianna Williams membre du relais 4 x 100 mètres jamaïcain sacré à Tokyo. Masilingi, 18 ans, a terminé à la surprise générale 6e de la finale du 200 mètres des Jeux de Tokyo. Sa compatriote Christine Mboma n'a pas participé aux 100 mètres des mondiaux des moins de 20 ans.
C'était les sports de Bagassikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, effectue une visite de travail à Washington. Dans son interview exclusive accordée à la VOA, il revient sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger et explique notamment les mesures prises par les autorités de la transition malienne en vue d'éviter un scénario afghan dans le Sahel. Écoutons-le au micro de Modibo Dembélé.
Le Mali, sur sa base de son budget propre, a commandé un avion de transport de troupes, Gaza, un avion d'Airbus Industries, pour lequel l'ensemble de ses obligations ont été honorées en termes de paiement, et que cet avion est même le deuxième avion acquis par le Mali. C'est un avion qui a une vocation essentiellement civile de transport de troupes, pour aider aussi par rapport aux opérations humanitaires, pour aussi le transport même du matériel électoral. Les chiffres que nous avons sur le premier avion indiquent que sur une période de 2016 à 2020, ce premier avion a permis de transporter près de 50 000 passagers et 75% sont des populations civiles. Les États-Unis particulièrement ont un rôle par rapport à ça parce qu'il y a un équipement qui est utilisé dans cet avion qu'on appelle un transpondeur. Puisqu'il s'agit d'un équipement américain, donc il était question que les États-Unis puissent donner une licence d'exportation. C'est la question de cette licence d'exportation qui est donnée par le département d'État américain qui a fait l'objet de blocage. Il a été indiqué que cette question est liée à une loi américaine qu'ils appellent Child Soldier Protection Act, qui est la loi américaine qui concerne la protection des enfants soldats. Et c'est essentiellement lié à des activités de groupes armés, parce que nous ne sommes pas responsables des activités du groupe Gatia, qui est mis en cause, parce que depuis le 6 août, cet appareil était censé être mis à disposition.
Mais à l'heure actuelle, est-ce que les Américains ont été sensibles à votre requête?
Pour être levé, il faut vraiment prendre en charge la condition, c'est d'avoir cette déclaration. Le groupe Gatia en question aurait signé cette déclaration. Nous espérons que c'est la seule condition parce que nous sommes dans un processus de diversification de nos partenaires et de compétition entre nos partenaires et que ce type de complication peut amener l'État malien à réfléchir dans le choix de certaines technologies occidentales.
Après 20 ans de présence militaire en Afghanistan, les Américains se retirent en un moment où le pays est contrôlé par les talibans. Et pourtant, les États-Unis ont dépensé des sommes faramineuses pour la formation des troupes afghanes. Que prévoit le Mali pour ne pas connaître le même scénario lorsqu'on sait que Barkhane projette de se retirer sous peu?
La comparaison n'est pas raison, mais la leçon qu'on tire, chaque pays doit vraiment assurer sa propre sécurité. Les autres ne peuvent venir que pour pouvoir nous aider. Le président Assimi Goïta et la population malienne sont dans cette dynamique de dire qu'il faut que le Mali assure sa propre sécurité et que les capacités locales soient renforcées pour nous permettre de jouer notre rôle et que nous puissions travailler aussi avec nos voisins dans le cadre de stratégies régionales de réponse. Il est souhaitable que nos partenaires puissent aussi venir en soutien.
Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au micro de Modibo Dembélé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
24 heures après l'attaque terroriste qui a visé le convoi des forces armées maliennes dans le cercle de Douentza, faisant une quinzaine de morts et plusieurs blessés, les Maliens sont de plus en plus inquiets et demandent aux autorités de redoubler de vigilance pour venir à bout du terrorisme. Reportage de Mohamed Danyoko.
Le Bamako peine encore à se remettre de la énième attaque terroriste qui a fait une dizaine de soldats morts hier jeudi dans le cercle de Douentza. Ces militaires qui avaient quitté Sévaré dans la journée pour rejoindre Boni ont été victimes d'une embuscade. La population est encore sous le choc.
La situation sécuritaire au Mali paraît très très préoccupante. Vraiment. Parce que chaque jour vient avec son lot de décès, son lot d'assassinats, de meurtres par-ci, tant dans le camp des militaires que dans le camp des civils. On ne sait plus à quel sein se vouer. Le Mali ne se limite pas à Bamako. À Bamako, ça paraît normal, mais à l'intérieur, au nord, au centre, c'est tout le temps des morts, c'est tout le temps des morts. Et vraiment, arrivé à un moment, on a envie de se demander, mais que font exactement nos autorités?
Si dans son communiqué, le chef d'état-major général des armées a salué les efforts déployés par les forces partenaires, pour l'ancien député Zoumananthi Doumbia, il faut que cette synergie d'action soit visible sur le terrain et porte ses fruits pour limiter ce lot incessant de morts du côté des militaires et des civils.
Aujourd'hui, je pense que l'important, que les partenaires du Mali, que l'armée malienne puisse suffisamment collaborer pour venir à bout de l'ennemi commun qui sont les terroristes. Aucun pays seul ne peut s'en sortir. Et donc, il faut quand même une synergie d'ensemble pour pouvoir venir à bout de ce fléau-là.
Le pays s'apprête à organiser des élections générales qui vont mettre fin à la transition. Si d'aucuns estiment que la situation sécuritaire ne permet pas l'organisation d'élections sur toute l'étendue du territoire, pour Salia Kariba Traoré, membre du pool d'observation citoyen du Mali, il est impérieux d'organiser des élections pour une sortie de crise.
Au regard de cette fragilité de la situation sociopolitique, il est impératif pour le Mali de pouvoir organiser des élections dans un contexte particulier, encore une fois. Depuis 2013, c'est le cas, et jusqu'à aujourd'hui, mais il est impératif, il est impérieux pour pouvoir organiser des élections, que nous puissions avoir le courage de prendre des décisions fortes.
À la suite de l'attaque, l'état-major général des armées a promis de continuer sa mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
L'Afrique de l'Ouest a enregistré cette année son tout premier cas de maladie à virus de Marbourg. Un homme est décédé le 2 août en Guinée de cette maladie similaire à la maladie à virus Ebola. Tirant les conséquences de son décès, les autorités sanitaires guinéennes ont identifié et suivent quotidiennement 172 cas contact du défunt. Pour en savoir davantage sur cette maladie, Mohamedou Oumfa a joint le docteur Constantine Tienkou. Il est médecin généraliste et directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis.
C'est une maladie rare. La maladie a été décrite pour la première fois en 1967 dans la ville de Marbourg en Allemagne. Des singes verts venant de l'Ouganda qui avaient été exposés aux chauves-souris ont été transportés pour les expériences dans les laboratoires en Allemagne. Et là-bas en Allemagne, les techniciens de laboratoire qui étaient en train de travailler sur des singes ont attrapé cette maladie. Essentiellement, c'est une fièvre hémorragique.
Pouvez-vous nous dire comment se transmet cette maladie et quels sont ses principaux symptômes?
Le vecteur important de cette maladie, c'est les chauves-souris fruitiers, les chauves-souris qui mangent les fruits. Et il peut se transmettre de la chauve-souris à l'homme, mais la principale transmission, c'est entre les hommes ou entre les primates. Ça veut dire que même les singes peuvent être infectés. Vous êtes infectés quand vous êtes exposés aux sécrétions telles que les urines, la sueur, les salives, le sang, ou bien des organes de quelqu'un qui a été infecté. C'est une maladie très infectieuse et très fatale.
Comment se manifeste cette maladie? Quels sont ses symptômes?
La maladie, c'est comme une maladie virale. C'est la fièvre, c'est les maux de tête, c'est le malaise, ce sont les douleurs articulaires et une diarrhée sévère. Et quand elle va au deuxième plan, vous commencez à faire des hémorragies. Ça veut dire que vous saignez dans votre peau, dans le mucus cutané. Et en général, on meurt d'excès de saignement et de déshydratation.
Alors, cette maladie donc est similaire à la maladie à virus Ebola. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux?
Il est difficile de distinguer les deux maladies au plan de vue clinique. Mais lorsqu'on regarde à l'épidémiologie, l'Ebola est essentiellement une maladie. La zone où elle était fréquente, c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la maladie de Marbourg vient autour de l'Ouganda, du Zaïre, de l'Afrique de l'Est. La deuxième chose, c'est que l'Ebola est un peu plus fatal. La fatalité de l'Ebola est plus élevée, mais sur le plan clinique, il est très difficile de les différencier. D'ailleurs, ils appartiennent à une même famille de virus, les filiviridés.
Un homme est décédé de cette maladie en Guinée. et les autorités suivent plus de 170 cas contacts. Quels conseils pouvez-vous donner aux gens qui vivent dans cette région pour réduire les risques de tomber malade?
Il faut isoler cette population, il faut un cordon sanitaire et il faut mettre en place des structures qui peuvent réhydrater les malades et aussi faire les transfusions sanguines. Mais les mesures sanitaires de barrières sont les mesures les plus efficaces. L'endroit où cette maladie se trouve doit être coordonné et nous devons empêcher les mouvements.
Docteur Constantine Tchienkou, médecin généraliste et directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président Joe Biden reste droit dans ses bottes malgré une tempête politique déclenchée par le retour rapide des talibans au pouvoir en Afghanistan. Plusieurs facteurs comme l'évacuation en toute sécurité des Américains d'Afghanistan vont déterminer s'il pourra survivre à cette crise. La correspondante de la Maison Blanche, Patsy Widakuswara, en a plus avec le récit de Abdelrahman Dia.
C'est toujours le chaos devant l'aéroport de Kaboul, alors que des milliers de personnes tentent de fuir le pays après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. Des parents passent leurs enfants à des soldats américains alors qu'ils tentent d'escalader la clôture. Mais pour Joe Biden, dans une interview exclusive avec ABC News, le retrait ne pouvait pas se passer autrement.
Nous allons regarder tout ça, mais l'idée selon laquelle il y aurait un moyen de s'en sortir sans le chaos, je ne sais pas comment ça pouvait se faire.
Pour Biden, personne ne pouvait prédire une victoire aussi rapide des talibans, une possibilité qu'il a écartée à plusieurs reprises depuis l'annonce du retrait en avril.
L'idée que les 300 000 soldats afghans que nous avions entraînés, équipés, allaient simplement s'effondrer et abandonner, je pense que personne ne l'avait anticipé.
Aussi, la difficile évacuation des Américains et des partenaires afghans et la chute rapide de l'armée afghane ont semé le doute sur la politique étrangère de Biden. Michael O'Nolan de Brookings Institution.
C'est un échec du leadership. C'est surtout un échec de la pensée et de la planification appropriée.
En seulement quelques jours, la cote de popularité de Biden a chuté de 7 points, son plus bas niveau selon un sondage Reuters Ipsos. Le soutien du public américain à la fin de la guerre a également chuté. 49% des électeurs soutiennent désormais la sortie, en baisse de 20 points depuis avril selon un sondage Morning Consult Politico. Des législateurs américains veulent lancer une enquête. Mitch McConnell est le chef de la minorité républicaine.
Ce que nous avons vu est un désastre absolu. La réputation des États-Unis est entachée.
Mais certains analystes estiment que les dégâts peuvent être réparés et que la décision de sortir est toujours la bonne. Charles Kupchan, du Council on Foreign Relations.
C'est l'effort de construction d'un État qui n'a pas fonctionné. Il était temps d'y mettre un terme malgré le coup porté à court terme à la crédibilité américaine.
Dans l'immédiat, l'évacuation réussie des Américains et la gestion des réfugiés afghans sera la clé pour que Biden survive politiquement à la crise. Ensuite, faire en sorte que l'Afghanistan ne devienne pas un terreau des groupes terroristes et respecte certaines règles fondamentales des droits humains, y compris la façon dont ils traitent les femmes et les minorités. C'est l'avis de Earl Anthony Wayne, un ancien haut diplomate en Afghanistan qui travaille maintenant avec le Wilson Center.
Les États-Unis et le reste de la communauté internationale doivent s'entendre sur un message clair pour les talibans sur ce que leur nouveau gouvernement devrait faire dans la pratique.
Dimanche, les États-Unis ont gelé près de 9,5 milliards de dollars de réserves du gouvernement afghan logés dans des comptes bancaires américains. Ces capitaux deviendront un levier important dans les négociations avec les talibans.
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel, Claire, Joseph, Eric Manrekiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute.